Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de ne pas trop baisser la tête pour qu'on m'entende de toute manière. J'ai amené quelques objets pour agrémenter un petit peu la séance, le sujet. Voilà. Puisque de nos jours, on nomme généralement jongleur quelqu'un qui manipule des objets pour produire une certaine illusion, mais on a tout de même conservé l'expression « jongler avec les mots ». Or, le jongleur au Moyen-Âge était ainsi considéré avant tout un musicien, un chanteur, quelqu'un qui transmet la parole, un jongleur de mots. Et donc ce soir, je vais vous proposer une présentation des jongleurs qui, autour des verbes « jongler », truffer, duper, jouer, farcir, tromper, aboutira au verbe mystifier qui est au centre du thème de l'Université populaire de Lyon cette année, puisque nous avons engagé ce thème autour de l'idée de mystification. Cette séance sera suivie la semaine prochaine d'une présentation par Maël Coulange de ses travaux de recherche à propos des traces de transvestisme dans la littérature médiévale. Conférence qu'elle a intitulée « Duperie et tromperie, la transgression de l'identité sexuelle dans la littérature médiévale ». Et ainsi, nous allons aborder des œuvres d'une même période, avec des regards très différents, des entrées très différentes, mais on va le voir avec un vocabulaire qui parfois sera très proche, comme ici, « duperie, tromperie », que vous allez entendre au fur et à mesure de cette séance. Et nous terminerons donc. La semaine prochaine, la première séance sera le lundi. Et la seconde, pour des questions pratiques aussi, puisque Maëlle Coulange n'habite pas à Lyon, donc elle a souhaité qu'on ait les deux soirées consécutives, eh bien nous terminerons le mardi avec quelques lectures pour illustrer notre propos, quelques musiques aussi, en profitant du fait que Maëlle est musicienne et qu'elle viendra peut-être avec une autre amie musicienne. Et puis bon, si on arrive à faire fonctionner le vidéoprojecteur, on regardera aussi ensemble quelques images. Des images de jongleurs. Et lors de cette troisième séance particulièrement, on aura aussi envie d'ouvrir la discussion avec vous à partir de vos questionnements, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. On aborde un sujet qui est très large, hein, c'est la littérature médiévale, ce sont plusieurs siècles de littérature, et évidemment avec un temps très court et l'envie de vous donner à vous envie d'y goûter. Alors on parle apparemment de jongleurs, au sens où je vais vous les présenter ce soir, durant une période allant environ du 9e siècle au 16e siècle. Et sur le début de la période, le terme alternait notamment avec le terme histrion. Donc déjà une différenciation qu'on peut imaginer entre un histrion et un jongleur, mais appartenant tout de même au même groupe social. Avant ces jongleurs, on a l'évocation dans l'histoire de chopes germains, de bardes et de mimes latins. Alors chop, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne l'ai jamais entendu prononcer, ça s'écrit S-C-O-P-S, mais il semble qu'il faille prononcer le S-C chop. Et c'était apparemment, alors apparemment c'est un mot qui pourrait ponctuer toute la séance parce que les apparences fourmillent. En matière d'histoire, d'une manière générale, en matière d'histoire médiévale, on manque souvent de sources. Et ces sources, quand on les a, elles sont sujettes à interprétation, et celles-ci évoluent constamment. Donc je ne parlerai que d'apparence, mais je vais me garder de répéter le mot « apparemment » à chaque proposition que je vous fais. Donc apparemment, ces chopes étaient des guerriers poètes. Les bardes, eux, étaient parmi les druides, ceux qui transmettaient le chant, le savoir et la parole sacrée, et les mimes latins, apparemment, des bouffons, dont on a notamment la description parfois des gesticulations, des contorsions, ce qui donne les mimiques faites par ces mimes latins. Voici pour précéder les jongleurs, et je vous propose maintenant de vous lire la définition que donne de ces jongleurs Edmond Farrall, qui a publié cet ouvrage « Les jongleurs en France au Moyen-Âge » dans la première décennie du siècle dernier, et ça reste aujourd'hui l'ouvrage le plus complet sur le sujet, sur lequel il y aurait certaines critiques à faire évidemment, puisqu'on avance en matière de recherche historique, mais tout de même avec une fourniture de recherche très importante. Et donc dans la première partie au chapitre 1, Edmond Farrall propose une première définition de jongleur, si ce n'est qu'elle n'est évidemment pas encore aboutie, puisqu'il y a tout un ouvrage derrière. C'est la première question qui se pose au début d'un livre qui prétend être une histoire des jongleurs. Et elle ne laisse pas d'être embarrassante. Supposons en effet que nous répondions « Un jongleur est un être multiple. C'est un musicien, un poète, un acteur, un saltimbanque. C'est une sorte d'intendant des plaisirs attaché à la cour des rois et des princes. C'est un vagabond qui erre sur les routes et donne des représentations dans les villages. C'est le vielleur qui, à l'étape, chante de gestes aux pèlerins. C'est le charlatan qui amuse la foule au carrefour. C'est l'auteur et l'acteur des jeux qui se jouent autour au jour de fête à la sortie de l'église. C'est le maître de danse qui fait caroler et baller les jeunes gens. C'est le taboureur. C'est le sonneur de trompe et de buzine qui règle la marche des processions. C'est le conteur, le chanteur qui égaye les festins, les noces, les veillées. C'est l'écuyer qui voltige sur les chevaux, l'acrobate qui danse sur les mains, qui jongle avec des couteaux, qui traverse des cerceaux à la course, qui mange du feu, qui se renverse et se désarticule, le bateleur qui parade et qui mime, le bouffon qui niaise et dit des balourdises, le jongleur, c'est tout cela et autre chose encore. Quand nous aurons fourni cette longue définition, nous n'aurons pas tout dit. On pourra encore se demander, un jongleur, était-ce donc tout cela à la fois, ou bien une appellation unique ne recouvrait-elle pas des industries différentes, et un jongleur n'était-il pas ou poète, ou saltimbanque, ou musicien? Et encore, pour quelle époque la définition vaut-elle? Convient-elle à tout le Moyen-Âge, ou bien faut-il la réserver à un instant particulier de l'histoire? Donc, effectivement, apparaît dans cette première définition un espace très large de la jonglerie, et la question, est-ce que cela vaut pour toute période médiévale, et peut-être aussi pour tous les lieux de la vie médiévale. On parle aujourd'hui communément d'une séparation sur le sol français de la culture doc et la culture doyle. J'aurais des choses à dire à ce sujet, mais ça en est un autre, celui de la langue, cette séparation. Mais effectivement, en tout cas, la culture n'était pas homogène en tout territoire de la France actuelle. Donc cette définition change selon le lieu, la période, et va de l'amuseur à l'homme de lettres, de l'interprète d'une poésie subtile, à celui de textes essentiellement comiques. Le jongleur du XIe siècle n'est pas celui du XIVe siècle. Et moi, je vais vous parler plus particulièrement des jongleurs de cette période entre le XIe et XIIIe siècle, qui est aussi la période des troubadours. Je vais vous parler des jongleurs attachés aux troubadours. Et c'est effectivement dans ce corpus-là, durant cette période et dans les textes des troubadours, que le mot jongleur apparaît le plus souvent et avec la plus grande stabilité. S'il diffère dans bien d'autres cas, du côté des troubadours, on a une stabilité apparente, puisque les jongleurs autour des troubadours sont essentiellement des musiciens, des chanteurs, et on leur recommande souvent aussi d'être bons en acrobatie. Mais ça, c'est quand même subsidiaire par rapport à la question de musique et de chant. Et peut-être qu'on pourrait différencier ces jongleurs-là, des troupes de jongleurs qui nous sont décrites souvent dans les chroniques ou dans des textes émanant du clergé. Et là, on nous décrit des troupes de jongleurs plus hétéroclites, avec effectivement des chanteurs, des musiciens, mais aussi des montreurs d'animaux savants, et puis des jongleresses. Et on décrit ses troupes comme des troupes de débauchés. Jongleresse, donc le féminin de jongleur, le mot semble avoir avant tout désigné une danseuse qui danse entourée de musiciens. Je vais vous dire en quelques mots la représentation que je m'en fais aujourd'hui, pour aussi donner peut-être une différence entre la compréhension moderne des rôles de chacun et la compréhension ancienne. Cette jongleresse, elle est souvent décrite comme dansant des danses lascives, et on l'imagine facilement gagnant les charmes de quelques seigneurs locales. Et on l'appellera à ce moment-là peut-être une soudadiera, c'est-à-dire une dame qui gagne sa solde en faisant commerce de ses charmes. Mais en aucun cas je ne le traduirai par prostituée, puisque là ça devient un métier, et là c'est plutôt un état de jouglaria, de jonglerie, dans lequel se retrouvent ces troupes, où, donc je vous le disais, on a des musiciens, on a des poètes, mais on a aussi des montreurs d'ours, des acrobates, et ces belles jongleresses, et tout ce beau monde se retrouve souvent à la taverne. Ça, c'est une des choses les plus constantes dans la description des jongleurs, c'est leur attrait pour la vie des tavernes. Et j'ai tendance à imaginer ces troupes de jongleurs comme une troupe de brigands, plus ou moins brigands, qui vont alors aller investir un lieu, et chacun peut-être avec sa spécialité. Qui ira à la cour chanter de doux chants et de subtils chants pour les gens de ses cours, qui se glissera dans la cour en tant que jongleresse pour en charmer l'un ou l'autre et passer la période dans cette région avec cette personne en étant bien entretenue, et puis peut-être un autre qui ira sur la foire ou la place d'un village montrer un animal savant, et encore peut-être un autre qui est spécialisé dans les jeux et qui va à la taverne, parce qu'à cette époque-là, on joue dans les tavernes pour de l'argent. Petite note en passant, par rapport à ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, dans ces fêtes médiévales qui se multiplient de partout, où aujourd'hui, on a en matière de spectacles de rue, comme on dit aujourd'hui, essentiellement des spectacles de déambulation, souvent d'échassiers, grimés terriblement. Et ce qui me paraît complètement improbable, puisque ce jongleur, lorsqu'il va donner son spectacle sur une place de village, il tient à se faire payer. Et donc, il va sur une place, il adresse le début de son boniment, demande quelque argent pour que la scène suivante soit jouée, et en aucun cas, il ne serait là déambulant, parce qu'à ce moment-là, il ne recevrait pas d'argent, ce qui est quand même son but à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il faut dissocier ces musiciens, chanteurs de cour et les troupes de jongleurs? Pas si sûr, puisque, en tout cas, tous se retrouvent à la taverne, et pour qu'on le comprenne bien, ben, je vais vous parler de ce jongleur Gossen Fedit, qui était un chevalier de petite richesse, et qui a perdu tout son avoir au jeu dans les tavernes, et qui alors s'est fait jongleur pour gagner sa vie. Et puis je vais vous lire aussi quelques vidas de troubadours. Je ne sais pas s'il y en a, oui, il y en a qui étaient là l'an dernier lors de ma présentation des troubadours, donc je reprends quelques éléments cette année. Les vidas des troubadours, ce sont des textes plus ou moins longs qu'on trouve dans les chansonniers de chants de troubadours pour présenter la vie d'un auteur, souvent de façon assez fantasque. Et on va commencer, donc là je vais commencer avec trois vidas qui sont des vidas de troubadours qui ont été jongleurs. D'ailleurs, toutes les vidas que je vais vous lire ce soir sont des vidas de troubadours qui ont été jongleurs, mais pas toujours au même titre. Avec, pour commencer, la vida d'un troubadour qui se nommait Huc Brunet. Donc traduit en français moderne de l'ancien occitan ou ancien provençal, ou ancien roman, comme j'aurais plutôt tendance à le nommer. Huc Brunet fut de la ville de Rodez, qui est dans la seigneurie du comte de Toulouse. Il fut clair et étudia bien les lettres. Il fut aussi fort subtil à trouver et spirituel. Il se fit jongleur et trouva de bonnes chansons, mais ne composa point de mélodies. Il fréquenta le roi d'Aragon, le comte de Toulouse, le comte de Rodez, son seigneur, Bernard d'Anduze, et le dauphin d'Auvergne. Et il s'est pris d'une bourgeoise d'Orlac qui avait nom Madame Galliana. Mais elle ne voulut pas l'aimer, ni le fréquenter, ni lui faire aucun plaisir. Elle prit le comte de Rodez pour amant et donna congé à Huc. À cause de la douleur qu'il en éprouva, Huc Brunet entra dans l'ordre de Chartreuse et c'est là qu'il mourut. Un petit arrêt peut-être parce que, effectivement, si vous n'étiez pas là l'an dernier, lorsqu'on dit trouver dans ces textes, il s'agit de troubar, c'est trouver les chants et éventuellement la mélodie qui va avec, d'où les troubadours. Et la seconde, c'est la vida d'un troubadour qui a été très connu pour faire des chants, pour écrire des chants très subtils dans ce genre qu'on appelait chez les troubadours le troubar clous, c'est-à-dire le troubar fermé, le troubar difficile de compréhension. Et c'est Arnaud Daniel, lui aussi, avant d'être troubadour, a été jongleur. Arnaud Daniel fut de cette contrée d'où venait Arnaud de Mareuil, de l'évêché de Périgord, d'un château qui s'appelle Ribérac. Et il était noble. Il apprit bien les lettres et prit plaisir à trouver. Puis il abandonna les lettres et il se fit jongleur. Et il commença à trouver en rimes difficiles, de sorte que ses chansons ne sont pas faciles à comprendre ni à apprendre. Et il aima une haute dame de Gascogne, femme de Guilhem de Bouville, mais on n'a jamais cru que la dame lui fît plaisir d'amour. À cause de cela, il dit « Je suis Arnaud qui amasse le vent, et je chasse le lièvre avec le bœuf, et je nage contre la marée. » Et enfin, une troisième vida, celle-ci de Gosbert de Poissybeau, que j'ai choisi, là encore évidemment, puisque c'est un troubadour qui a été jongleur, et aussi pour l'amusement, je trouve que c'est une histoire amusante. Le moine Gosbert de Poissybeau était un noble de l'évêché de Limoges, fils d'un châtelain de Poissybeau. Enfant, il entra dans les ordres, dans un monastère qui s'appelle Saint-Lunat. Il devint lettré et sut bien chanter et trouver. Par désir d'une femme, il quitta le monastère et vint à celui chez qui allaient tous ceux qui cherchaient honneur et bienfait pour leur courtoisie, Savaric de Mauléon. Et Savaric lui donna l'équipement de jongleur, des vêtements et des chevaux. Ainsi, il alla à travers les cours et composa de bonnes chansons. Il tomba amoureux d'une demoiselle noble et belle et faisait ses chansons sur elle. Mais elle ne voulait pas l'aimer s'il ne devenait chevalier et ne l'épousait. Alors, il raconta à Savaric comment la dame le refusait. Savaric le fit donc chevalier et lui donna terre et rente. Et il prit la demoiselle pour femme et lui accorda grand honneur. Et il advint que Gosbert alla en Espagne et que la demoiselle resta seule. Or, un chevalier d'Angleterre s'éprit d'elle. Il fit et lui dit tant qu'il réussit à l'emmener et il la garda longtemps comme maîtresse. Puis il l'abandonna d'une façon cruelle. Et lorsque Gosbert rentra d'Espagne, il logea une nuit dans la ville où elle était. Et quand le soir tomba, il sortit par désir d'une femme, il entra dans la maison d'une pauvresse, où avait-il entendu dire, il y avait une très belle demoiselle. Et il y trouva sa femme. Quand il la vit et qu'elle le vit à son tour, ils éprouvèrent une grande douleur et une grande honte. Il resta avec elle cette nuit et le lendemain, il partit avec elle et l'emmena dans un couvent où il la fit entrer. Et à cause de cette douleur, il perdit toute inspiration et ne chanta plus. Et ici sont écrites quelques-unes de ses chansons. Voilà donc des troubadours qui ont été jongleurs, ou des jongleurs qui ont été troubadours, et j'ai aussi choisi ces trois-là, parce que là, on a trois exemples de personnes qui ont suivi un enseignement clérical. Et effectivement, il y a fort à penser que parmi ces jongleurs, on ait pu trouver de nombreux clercs. Ou en tout cas, qu'ils aient été clercs ou non, ou qu'ils aient suivi l'école cléricale ou non, il s'agissait là de lettrés. Et on peut penser aussi que ce mouvement des jongleurs, cette vie des jongleurs, se soit croisée avec la vie des clercs vagants. Les clercs vagants, c'est à cette époque où on envoyait beaucoup de monde à l'école cléricale, mais il n'y avait pas ensuite des postes pour tout le monde. Alors, des gens qui sortaient de l'école cléricale se retrouvaient sans un poste, sans fonction au sein du clergé, ou bien tout simplement, ça pouvait être des étudiants encore de l'école cléricale qui, comme nos étudiants à nous aujourd'hui encore, allaient un peu festoyer en dehors de leurs études, voire les manquaient pour préférer le côté de la fête. Ces clercs vagants qu'on a appelés autrement les goliards, qui sont notamment les auteurs des Carmina Burana, écrits au XIIIe siècle, dans lesquels on trouve beaucoup de chansons à boire, ou des chansons érotiques, parfois aussi des chansons philosophiques et spirituelles. Ces goliards, qui doivent leur nom à Goliath représentant là le mâle, où on retrouve aussi dans Goliath l'idée de gueule, de gueulard, ou ces gueulards qui mangent goulûment. Et puis, on retrouve aussi l'idée de galliard, guilé, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, puisque je vais vous amener maintenant beaucoup de questions de vocabulaire. En commençant par celui essentiel à notre nom de jongleur, je vous le disais, jongleur, jongler avec les mots, jouer avec les mots, effectivement, jongler et jouer ont une origine commune, et on retrouve ce verbe jouer dans différentes expressions, jouer de la musique, jouer la comédie, jouer un tour, se jouer de quelqu'un. Vous voyez les activités des jongleurs qui se retrouvent là avec ce verbe jouer, mais aussi jouer à des jeux. Et je vous disais qu'effectivement, on retrouvait ces jongleurs souvent dans les tavernes où on jouait abondamment pour de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai amené ce petit livre de Jean-Marie Mel, qui est un livre très récent, un des rares livres assez complets sur les jeux, en tout cas là sur une étude des jeux. Il en a écrit un autre qui est plutôt une présentation des différents jeux au Moyen-Âge, et qui nous dit donc qu'entre le XIIIe et le XVIe siècle, on assiste à une véritable invasion ludique. Les jeux de plus en plus nombreux, de plus en plus diversifiés, occupent une place croissante dans la vie quotidienne de la société médiévale. Loin d'être le simple reflet d'une augmentation quantitative et qualitative des sources disponibles, cette croissance est confirmée par le fait que désormais il n'est plus de type de document qui soit vierge de référence aux activités ludiques. Et plus loin, si je retrouve ce que je voulais dire, oui. On connaît l'exemple, vous ne le connaissez pas non plus, mais en tout cas c'est sur cet exemple qu'il part, on connaît l'exemple célèbre, si le célèbre, peut-être certains d'entre vous le connaissent, des vignerons de Sens et d'Auxerre à la fin du XIVe siècle. L'arrêt du Parlement qui, en 1393, vient régler le problème précise que les propriétaires reprochaient aux vignerons de quitter le travail avant l'heure, à la fois pour s'occuper de leurs propres vignes et surtout pour se rendre dans les tavernes afin d'y jouer à la paume. On leur reproche ainsi de perdre en déambulation ludique des heures qui pourraient être consacrées au travail. Plus explicite encore est la remarque de la prévôté de Paris qui, le 22 janvier 1398, s'inquiète de ce que plusieurs gens de Mestier et autres du petit peuple quittent leur ouvrage et leur famille pendant les jours ouvrables pour aller jouer à la paume, à la boule, au dé, aux cartes, aux quilles. Non seulement les travailleurs utilisent leur temps libre pour jouer, mais en plus, le temps du jeu vient dangereusement mordre sur le travail. Voilà, donc c'est au XIVe siècle, soit le moment où effectivement affluent ainsi les tentatives d'interdire les jeux, parce que de plus en plus, on rentre dans une société laïque où il va y avoir de plus en plus une séparation du temps de travail et du temps de jeu, c'est-à-dire aussi mutualisation du travail. On va de plus en plus avoir des corps de métier. D'ailleurs, il y aura des confréries de jongleurs un petit peu avant cette époque-là déjà. Mais enfin, dans le temps dont je vous parle, 11e, 13e siècle, le jeu est de partout. Le jeu tel qu'on l'entend nous aujourd'hui est de partout dans la société médiévale. J'insiste là-dessus parce que bien souvent, je me rends compte que les gens aujourd'hui ont l'idée de gens qui vivaient il y a 800 ans vivant une vie beaucoup plus laborieuse que la nôtre, et quand on l'observe, au contraire, on voit que les sacripants y passaient sacrément beaucoup de temps à jouer. Des jeux d'argent, donc. Et donc, je vous présente là des jongleurs qui sont en quelque sorte des joueurs à temps complet. Ils n'arrêtent pas de jouer, ils vivent par et pour le jeu. Et qu'est-ce que c'est que le jeu, finalement? Alors peut-être que je peux rajouter quelques expressions avec le verbe « jouer ». Faire jouer ses relations, par exemple. Une porte qui a du jeu. Qu'est-ce qui est en jeu? J'entends là le jeu comme une possibilité, une liberté de mouvement, d'un mouvement dont dépend la suite des événements. Et puis, parallèlement, on y entend aussi cette idée, jouer un tour, par exemple, cette idée de tromper ou jouer de la musique, cette idée de séduire avec une belle musique, un beau langage, de créer une illusion, pour arriver aujourd'hui à un sens qui est quand même très resserré autour de l'idée de jeu-jouet, d'oisiveté et de perdre son temps. Et en fait, il y a dans la littérature, dans les textes médiévaux, un nombre étonnant de mots, de verbes qui ont suivi à peu près le même trajet, qui décrivent soit l'activité principale des jeux de mots, de jouer avec les mots, ou des idées de production artistique, et qui, de plus en plus, vont prendre un sens péjoratif de perdre son temps. Et je vais vous donner quelques-uns de ces mots, de ces verbes que j'ai choisis pour étant ceux qui personnellement me parlent le plus et sont les plus en lien avec ce sujet, en commençant par le mot farce. La farce, on a nommé farce avant tout des introductions par les jongleurs dans la liturgie, puisqu'une des activités des jongleurs, c'était parfois, quand ils ne chantaient pas les chants des troubadours, d'aller chanter la vie des saints dans les églises ou sur leur parvis. Et pour intéresser le public, capter le public populaire, eh bien, ces jongleurs ont introduit dans la liturgie des passages comiques qu'on a nommés les farces. Et c'est devenu, avec le temps, un genre littéraire à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et voilà pourquoi je vous ai amené ce livre qui s'intitule « La farce ou la machine à rire, théorie d'un genre dramatique, 1450-1550 ». Vous voyez, on bascule déjà dans la Renaissance. C'est un livre de Bernadette Reflot. Donc, page 218, on y trouve quelques mots sur la farce, mais tout le livre est sur la farce et étudie l'idée de farcer et de farcerie. Le principe dynamique de la farcerie réside le plus souvent dans le retournement de la tromperie sur le trompeur, qui devient alors le trompé. Monsieur Le Bègue détaille avec précision ce mécanisme. Le procédé dont les auteurs de farce ont tiré le meilleur effet comique, c'est le retournement de situation. La symétrie de deux scènes antithétiques séparées par un événement. Le balancier va dans un sens, arrivé à l'extrémité, il repart en sens contraire. Voilà une idée de la farce. Et effectivement, en étudiant les farces, on se rend compte de cette constante du trompeur qui va être trompé, de l'arroseur arrosé. Et c'est un thème très important dans d'autres parts de la littérature médiévale. Farce, farcer, farcir. Alors la farce, en termes culinaires, c'est un mélange de viande dont on va farcir un plat, un mélange. Je reviendrai, si j'ai le temps tout à l'heure, sur cette idée de mélange. Et donc il y a l'idée de mélange, mais il y a aussi l'idée de bourrer. Très important dans ce qui va suivre. Il y a l'idée aussi, puisqu'il y a un croisement de farcir avec farce ou fat, le phare. Parler sans phare, parler sans tromperie. Donc le phare, eh bien, une tromperie, un maquillage, ou parfois aussi la coiffe des dames. C'est-à-dire que la farce définit alors ce dont on rembourre la coiffe des dames pour qu'elle se rende plus belle, ainsi que le maquillage pour se rendre plus belle toujours, séduire, tromper sur leur beauté, illusionné, bourré. Je veux dire là, truffe. C'est de la truffe. L'expression ancienne pour dire c'est du bobard. C'est de la truffe. Et c'est très rigolo parce qu'on retrouve là le même mélange du culinaire et de la tromperie, puisque la truffe, évidemment, c'est aussi ce qu'on met dans un aliment, de nouveau pour le farcir, et puis pour en améliorer le goût. Donc on a toujours là cette idée d'un artifice, même si la truffe est véritablement un aliment, mais tout de même caché à l'intérieur du plat, et alors on va ressortir cet arôme caché, il y a une forme de tromperie dans cette idée de truffer. Et puis toujours on bourre. Tromper. Tromper vient de trompeter. Jouer de la trompette. Je ne suis pas sûr de toujours savoir de quelle trompette il s'agit là. Parce qu'on peut éventuellement faire le parallèle avec le corps né que je présentais l'an dernier. Donc, je crois que je ne l'avais pas amené l'an dernier, hein, ou si? Si, je l'avais amené l'an dernier. Bon, je suis répétitif. Donc voilà, ça c'est corné. Et comme je l'expliquais l'an dernier, corné, outre faire vibrer un corps, au tout début, puis une corne, puisque le mot s'est altéré. Je vais essayer de le dire joliment, avec un petit peu de... C'est aussi pratiquer sa sexualité hors du mariage, sans risquer l'enfantement. Et là, il y a une dualité, parfois, qu'on peut soupçonner, puisque c'est aussi le corps nu. Et parfois, c'est pas tout à fait si clair, voire l'ambiguïté est voulue. On revient au trompeur trompé. Le corps nu, ça peut être celui qui va corner ou celui dont on a corné la dame. Vous voyez, il y a le corps nu qui est corné et le corneur qui est cornu. Parce que nécessairement, tout ça, ça va ensemble. Duper. Duper, ce serait ôter la huppe. Et là, on revient à la coiffe des dames pour les mettre en valeur. Je vais lui ôter la huppe, je vais la duper, celle-là. Farcer, farcir, dans ce livre « La farce ou la machine à rire », la question est posée du croisement du sens culinaire et du sens de jouer un tour, de tromper. Et curieusement, l'auteur a oublié l'expression « le dindon de la farce ». Et là, ça me semble tout à fait clair. Hein. À savoir si c'est duper une dame, c'est se la farcir, je ne sais pas. C'est à dessin, ça va dedans. Alors. Un autre verbe, ceci est une muse, et on a donc le verbe muser, jouer de la muse. Et s'amuser, perdre son temps à jouer de la muse. Mais aussi, sur la même racine, musarder, en relation avec le museau. Hein, et, le museau est cherché. Ce qu'on peut comparer au comportement de certaines musaraignes qui sont là pour venir piquer les provisions. Et puis enfin, gabé, qui est là aussi est trompé par les mots, d'où gabegie et galéjade. Et galliard, pour ça je vais vous lire un petit passage de ce livre de Roger Dragonetti, donc le Gai Savoir. Dans la rhétorique courtoise, le gai savoir, le sens premier du mot gai, c'est plutôt une idée de liberté. Et je pense que Maëlle reviendra sur cette idée-là la semaine prochaine, en vous parlant beaucoup de questions de sexualité, puisque on a tendance à croire, en fait, c'est un anglicisme qui est revenu chez nous, mais qui avait une origine provençale, le mot gai. Avoir un comportement gai, et un comportement libre, et aussi en matière de sexualité. Donc, galliard, dont je vous parlais tout à l'heure pour goliard, et puis dont je vais vous parler maintenant, avec ce petit extrait. Le verbe guiller, tromper, dérivé du substantif guille, disparu de la langue française, n'y survit aujourd'hui que dans le proverbe « tel croit guiller guillot que guillot guille ». Encore le trompeur trompé. Le jeu évident entre Guy et Guillot, diminutif de Guillaume, s'accompagne d'interférences de sens entre la sottise et la malice du nommé Guillot. Monsieur Dosa, l'auteur du dictionnaire des noms de famille et prénoms de France, fait cette remarque au sujet du nom Guillaume. Les formes familières, abréviations, diminutifs des anciens noms de baptême, auxquels on a donné le nom d'hypocristique, se sont multipliées à la fin du Moyen-Âge à cause de la vogue de certains prénoms. Montaigne rapporte qu'au cours d'un banquet de gentilshommes, on avait eu l'idée de se grouper selon le nom de baptême, il fallut plusieurs tables pour réunir les Guillaumes. Pour distinguer entre eux les nombreux Guillaumes, Jean, Jacques, etc., on eut recours aux hypocristiques Guillot, qui fut usité surtout dans les milieux ruraux. C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau. Guillet, Guillon, Guillaumet, Guillemet, Guillaumin, Guillemin, Guillemino. Les suffixes arrivent à se brancher l'un sur l'autre. Si nous devions, à notre tour, réunir tous les Guillaumes qui figurent comme auteurs ou personnages dans la littérature médiévale, nous n'en serions pas moins embarrassés. De plus, les diminutifs et les dérivés de ce nom seraient encore plus nombreux en raison de la coexistence de graphies différentes, notamment pour ce qui concerne la lettre initiale Guillaume ou Guillaume, avec un W. Quant au sens de ce nom, la forme germanique Wilhelm est composée de Will, volonté, et de Helm, home. Si bien que ce nom propre pouvait signifier le cas échéant volonté protectrice. En revanche, la forme romane Guillaume est rapprochée du mot Guy dans le dictionnaire de l'ancien français. Très vaste le champ sémantique de ce terme, aussi entre l'idée de ruse, tromperie, malice, hypocrisie et de niaiserie, bouffonnerie, farce, sottise. Alors, je ne sais pas votre propre expérience. Moi, c'est Guillot, si je les pense paysans, eh bien, je crois en croiser encore souvent aujourd'hui dans nos campagnes. De ces anciens paysans de nos campagnes, qui sont souvent pleins de malice et qu'on trouve campés sur leur position, et autrement dit, des gaillards. Parce que de Galliard, qui a donné une part de Goliard, découle aussi gaillard ainsi que galant. Donc on a là un personnage qui est à la fois bien campé sur ses positions, un Wilhelm, un homme de volonté, et comment fait-il pour défendre sa position? Essentiellement par la malice de sa parole. Et puis c'est Guillaume parmi les personnages de la littérature médiévale, soit personnage de fiction, soit auteur, effectivement, ils sont en grand nombre, dont le premier troubadour connu, Guillaume de Peytu, Guillaume IX d'Aquitaine, 7e comte de Poitiers, 9e duc d'Aquitaine, ou ce personnage de Guillem, qui dans le roman de Flamenca va user de ruse pour conquérir celle qu'il a choisi d'aimer, Flamenca. Donc vous voyez que cette idée de Guy ou de tromperie ou de face se retrouve du côté du vocabulaire autour des jongleurs, mais se retrouve aussi dans le nom des troubadours, et effectivement, il y a un rapprochement très fort, notamment donc au XIe, XIIIe siècle, surtout la période des troubadours en fait, entre les troubadours et les jongleurs, et je pense d'ailleurs que la poésie des troubadours vient d'abord d'une poésie transportée par les jongleurs, ou peut-être par des clercs vagants. Et alors on va les différencier, ces troubadours et jongleurs. Le troubadour, c'est nommément celui qui trouve le chant, parfois la musique. Alors, la définition qu'on trouvera partout aujourd'hui, c'est auteur-compositeur, hein, poète-musicien. On l'a bien entendu tout à l'heure dans la vida de Hugues Brunet, cet homme-là ne savait pas écrire des mélodies, n'écrivait que des chants. Donc, au moins un exemple pour nous montrer qu'il suffit de trouver des chants, c'est un bien grand mot, suffire, pour être nommé troubadour. Et donc, ce fait de trouver des chants, ça n'est pas un métier. Sur cette époque-là, c'est une qualité qui fera qu'un seigneur troubadour verra sa cour appréciée, et qui fera qu'un pauvre chevalier sera apprécié dans maintes cours. Quand il s'agit d'un métier, celui de jongleur, celui de chanter, eh bien là, clairement, dans les Vidas, c'est signalé, celui-ci s'est fait jongleur. Lui, il a fait métier de jongleur pour recevoir, alors parfois des chevaux et des vêtements, mais une fois qu'il était habillé ainsi et équipé, il allait effectivement gagner son argent, sa vie, parce que c'est pas toujours de l'argent, les échanges à l'époque, en chantant. Et on a longtemps fait une confusion entre ces jongleurs et ces troubadours. Et souvent, d'ailleurs, on l'a fait encore aujourd'hui, en considérant, même dans des ouvrages très poussés, les troubadours comme étant des gens qui allaient de château en château. Pourquoi ? Sans doute pour plusieurs raisons. Donc on l'a vu, il y a eu des jongleurs qui sont devenus troubadours, il y a des troubadours qui sont devenus jongleurs, il y a des jongleurs qui chantaient les chants d'un troubadour pour son compte, et puis peut-être aussi ce fait qu'effectivement, il y avait des troubadours qui allaient de cours en cours, puisqu'ils étaient appréciés dans plusieurs cours, et donc on sollicitait leur compagnie. Mais aussi, les cours parfois allaient de château en château. Elles étaient parfois, même souvent, itinérantes. Un seigneur tenait sa cour dans différents de ses châteaux, parce qu'en même temps, il menait son administration et sa cour le suivait. Donc la cour elle-même était itinérante. Et je vais vous lire trois ou quatre, plutôt trois. Est-ce que tu te souviens si j'ai lu celle du père cardinal l'an dernier ? Ça ne te dit rien, non, ça ne vous dira rien. De toute façon, ça fait un bon rappel. On va commencer avec celle d'Emery de Péguillon, qui est page 33. C'est plein de petites histoires. C'est un livre de poche, ça s'achète pas cher, et c'est plein de petites histoires amusantes. Là, j'ai choisi celle des jongleurs, mais il y en a qui sont plus drôles encore. Émeric de Péguillon naquit à Toulouse, fils d'un bourgeois qui était marchand et qui vendait des draps. Il apprit des chansons et des sirventes, mais il chantait très mal. Et il tomba amoureux d'une bourgeoise, sa voisine, et cet amour lui apprit à trouver. Il composa sur elle maintes bonnes chansons, mais le mari de la dame se disputa avec lui et l'outragea. Émeric en prit vengeance, le frappant d'un coup d'épée à la tête. Il fut donc obligé de quitter Toulouse et de s'exiler. Il alla en Catalogne, et Guilhem de Bergedan l'accueillit, et Émeric l'exalta en ses vers dans la première chanson qu'il composa. Aussi, Guilhem le fit jongleur et lui donna son palefroid et ses vêtements. Puis il présenta Émeric au roi Alphonse de Castille, qui lui donna des armements et lui conféra des honneurs. Il resta longtemps dans ses contrées, puis il alla en Lombardie, où tous les gens notables lui firent grand honneur, et il finit ses jours en Lombardie. Donc vous voyez, un jongleur qui là est devenu troubadour. Maintenant, la vida de troubadour qui s'appelait Hugues de Saint-Cirq. Hugues de Saint-Cirq était du Quercy, d'un bourg qui a nom Tégra, fils d'un pauvre vavasseur qui avait nom Armand de Saint-Cirq, parce que le château d'où il venait avait nom Saint-Cirq. Ce château se trouve au pied de Sainte-Marie de Rocamadour et fut détruit par la guerre et ruiné. Ce Hugues eut un grand nombre de frères aînés, ils voulaient le faire clair et l'envoyèrent à l'école à Montpellier. Pendant qu'il croyait qu'il apprenait les lettres, il était en train d'apprendre des chansons, des vers et des sirventes et des tensus et des couplets. Et les faits et les discours des vaillants hommes et des nobles dames qui étaient au monde ou qui le furent jadis. Avec ce savoir, il se fit jongleur. Le comte de Rodez et le vicomte de Turenne l'élevèrent beaucoup dans l'art de la jonglerie, avec les tensus et les couplets qu'ils firent avec lui, ainsi que le bon dauphin d'Auvergne. Et il séjourna longtemps en Gascogne, pauvre, allant parfois à pied, parfois à cheval. Il resta longtemps chez la comtesse de Benauge, et par elle, il obtint l'amitié de Savaric de Mauléon, qui l'équipa et le vêtit. Et il séjourna longtemps avec lui en Poitou et dans ses contrées, puis en Catalogne, en Aragon et en Espagne, avec le bon roi Alphonse, ainsi qu'avec le roi Alphonse de Léon et le roi père d'Aragon. Et puis il se rendit en Provence avec tous les barons, puis en Lombardie et dans la Marche, et il prit femme et eut des enfants. Huc apprit beaucoup des autres, et il leur enseigna volontiers ce qu'il savait. Il fit de fort bonnes chansons, de bonnes mélodies et de bons couplets. Mais il ne fit pas un grand nombre de chansons, car il ne fut jamais amoureux d'aucune femme. Mais il sut bien feindre l'amour devant elle avec son beau parler. Et il sut bien dire dans ses chansons tout ce qui se passait avec les dames. Il savait bien comment les mettre en valeur et les critiquer. Mais après son mariage, il ne fit plus de chansons. Alors, je reviendrai notamment sur un des genres, là je vous ai cité différents genres, Cervantes, Tensus, Verse et Cobla, et Cansus. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le terme Tensus. Je vais tout de suite tout de même préciser que quand on dit qu'il a écrit beaucoup de bons couplets, de bonnes mélodies, mais pas un grand nombre de chansons, la Kensu, généralement, ce sont des chansons d'amour. Donc, effectivement, comme lui, il n'était pas amoureux, d'aucune dame, il n'écrivait pas de Kensu. Et puis quand il y en a eu une qui s'est mariée avec elle, alors rien ne dit qu'il était amoureux d'elle. Hein. Parce que rien ne dit au Moyen-Âge que lorsqu'on se marie, ce soit par amour. En tout cas, là, il fit plus de chansons. La Tensus, justement, c'est la suite de mon sujet, ça tombe bien. Donc, on a entendu dans cette vida que ce jongleur troubadour, eh bien, tensonnait, faisait des Tensus avec les seigneurs qui l'accueillaient. Les Tensus, ce sont des joutes poétiques auxquelles se livraient les troubadours et donc parfois aussi les jongleurs, qui se déroulaient ainsi que le premier faisait une proposition de débat avec deux ou plusieurs parties à choisir, par exemple d'une dame, faut-il préférer la moitié du bas ou la moitié du haut, et alors celui qui répondait choisissait le parti qu'il voulait défendre, et celui qui avait lancé le sujet, lui, gardait le parti que le second lui avait laissé. Donc ne choisissait pas le parti qu'il allait défendre, et donc pour là on entend bien que la question c'était la qualité du plaidoyer, et non pas de savoir si on avait pris le bon parti. Et donc ces troubadours et jongleurs, parfois tensonnaient ensemble, c'est-à-dire cette capacité de plaider une chose et son contraire. Et parfois d'ailleurs ces tensus étaient tout à fait idiote, je vais vous le dire. Je vous avais parlé l'année dernière des paix qui font avancer les navires, de troubadours, d'ailleurs du roi Alphonse qui intervient là à un moment, le roi Alphonse de Castille, qui se pose la question de savoir s'il serait courtois de péter suffisamment fort pour gonfler les voiles d'un navire coincé sur l'eau où il y aurait 100 dames dessus, 100 demoiselles. Alors, est-ce qu'en pétant suffisamment fort, on arrivera à le ramener vers la rive, est-ce que ce serait courtois? Voilà un genre de débat. Et on a aussi une tensu entre ce jongleur troubadour, Henri de Peguilan, et le troubadour Albert de Sisteron. Et Henri provoque Albert en lui disant « Je sais très bien que tu sais plaider sur tout, tu sais tensonner sur tout, alors je te propose de tensonner sur rien ». Et effectivement, ils échangent sur cette notion de rien. Bon, c'est plus du verbiage qu'autre chose. Rien, je le rappelle en passant, qui vient de la même racine que réel, c'est-à-dire res, la chose, res publica, la chose publique. Rien et réel ont la même racine. Puis d'ailleurs, j'ai fait une fois cette petite recherche. Ces définitions de choses dans nos dictionnaires souvent renvoient à celles de principe, qui renvoient à celles de nature, qui renvoient à celles de choses. On a donc là des définitions qui se mordent la queue, puis on a l'impression que tout ça est tout à fait conceptuel plutôt qu'autre chose. Parce que peut-être la semaine prochaine on en discutera, moi je vous amènerai bien sur ce terrain-là. Je pense que le réel, c'est plutôt la réalité, c'est plutôt quelque chose de conceptuel, quelque chose de l'imaginaire. Le néant, cette tensu du rien, du tensu du néant, nous ramène au vers de pur néant de Guilaine de Peytu, le premier troubadour, qui a écrit effectivement un Pfarrei und Vers de Breitnien, ferait un vers de pur néant, que je vous dirai la semaine prochaine, puisque j'en ai enfin tiré une traduction qui me convient à peu près. Et c'est un vers qu'il dit être ni de lui ni de personne sur aucun sujet, et s'ensuit une suite de contradictions et de jeux d'inversion. Je vous lirai aussi la semaine prochaine un texte qui, dans la langue originale que l'on nomme comme tous ces chants de troubadour, par le premier vers, « Ar resplan la flor inverse »« Alors brille la fleur inverse ». Et là aussi, ce sont tous des jeux d'inversion, de sensations qui sont antithétiques avec le moment passé, par exemple d'avoir froid quand il fait chaud. J'évoquerai aussi un chant de Guiraud de Borneil, un chant qu'il a fait ni bon ni mauvais, ni de qui, ni pourquoi, ni de rien dont il se souvient. Et puis, encore aujourd'hui, je vais évoquer un chant qui est un petit peu sur la bonne figure, un chant de Rimbaud de Vaqueras, qui selon la traduction de mon ami Domitie Vigneron, une musicienne talentueuse, démarre ainsi, sage et fou, humble et orgueilleux, cupide, généreux, lâche et hardi, etc., etc., etc. Vous voyez qu'on a là encore une suite de contradictions ou d'inversions. Or, ces chants d'amour, enfin ces chants des troubadours que chantent les jongleurs, sont le plus souvent des chants d'amour. On l'a bien entendu dans les Vidas, c'est l'amour qui inspire le troubadour à trouver. Sans l'amour, s'il n'y a pas d'amour, ben, soit il ne trouve pas, soit il trouve des chansons de piètre qualité. D'un amour prétendu, fin amour, l'amour pur. Prétendu. Parce que on a quand même pas mal de troubadours qui revendiquent cette chose-là. Si je chante mieux que les autres, c'est que je connais l'amour le plus pur. Et d'ailleurs, je chante l'amour le plus pur pour obtenir le chant le plus pur. C'est donc un amour, un chant d'amour pour l'amour du chant. Et tout ça, dans une atmosphère où on l'a vu, l'éloquence, le beau parler sont propres à la séduction et à la tromperie. On a donc un chant qui se veut le chant d'amour le plus pur, et cette notion-là joue avec le fait de savoir construire un beau discours pour duper la dinde, éventuellement, je ne sais pas comment on l'a nommé à ce moment-là. Et c'est ce jeu constant entre l'amour qui, la quête d'amour pour la quête d'un désir, enfin pour l'assouvissement d'un désir charnel, et l'amour avec un grand A, l'amour pur, c'est aussi un jeu entre le travail de l'esprit, une quête de langage, qui est aussi une quête spirituelle. C'est-à-dire qu'on assiste là à une volonté d'écrire la poésie la plus belle, tout en sachant très bien que c'est avec une part de travail d'éloquence qu'on le fait, mais en même temps en cherchant à atteindre la spiritualité la plus haute possible à travers cette poésie. Et la semaine prochaine, si donc on y parvient, on verra des images de jongleurs dans la sculpture romane notamment, où on trouve souvent des jongleurs, mains en bas, tête en bas, pieds en haut. Et alors, on pourrait interpréter cette présence dans les sculptures romanes, sur les églises romanes, comme l'idée d'une vision grotesque du jongleur qui détourne le peuple du droit chemin du travail et de la croyance, en les amenant du côté du divertissement. Et puis d'autres, ils voient aussi peut-être l'idée justement de ramener ce qui est en bas, les pieds sur terre, vers le haut, de tirer le bas vers le haut. Et là, je trouve qu'il y a encore l'évocation de ce jeu à double entrée. Et je terminerai en évoquant simplement non seulement le nombre de fêtes qu'on trouve au Moyen-Âge, mais notamment ces fêtes des fous, où les choses aussi s'inversent, renversent, bouleversent. Cette fête de l'âne, par exemple, où c'est un âne qui va être célébré lors de la messe, ou même encore le valentinage, puisque c'est la Saint-Valentin. Vous savez d'où ça vient, la Saint-Valentin, d'où on peut supposer que ça vienne, de tradition de valentinage, où une dame qui se considérait comme mal mariée pouvait choisir ce jour-là le mari qu'elle voulait. Ou peut-être encore la reine d'Avril qui allait danser avec tous les hommes alentours pour rendre son mari jaloux. Vous voyez, encore des choses qui se renversent. Je voudrais évoquer encore comme toile de fond une image très forte au Moyen-Âge qui est celle de la roue de la fortune. Cette roue qui tourne et de fait on peut se retrouver des fois en haut, des fois en bas, parfois être déchu. Et puis peut-être encore parler de la métempsychose, c'est-à-dire cette croyance qui a été longtemps celle de nos ancêtres, comme quoi notre âme pouvait se transmettre dans une autre vie, à une autre forme de vie, humaine ou animale. Et alors, ça nous donne un imaginaire tout à fait différent du nôtre aujourd'hui. Si je suis un prince et que j'imagine que dans une autre vie avant ou dans une autre vie après, je serai peut-être un vilain, ou le contraire, ou si je suis une femme et que j'imagine que dans une prochaine vie ou dans une vie antérieure, j'ai été un homme, ou vice-versa, alors mon idée de l'altérité est bien différente que si on se considère tous comme des individus impénétrables les uns pour les autres. Voilà pour avoir tenté aujourd'hui de vous tisser une certaine vision que j'ai d'une spiritualité qui, à cette époque-là, s'est développée autour d'une certaine idée du jeu. Des choses qui sont en jeu et avec lesquelles on peut jouer. Et d'ailleurs, ça va se codifier avec le temps, puisque sur la fin de cette histoire, on trouvera nos jongleurs accoutrés de vêtements bipartites, en échiquier, avec des couleurs qui s'inversent les unes en dessous des autres. Et je vais terminer. Ah, je dis ça. Ah non, vous voulez vous amener à mystifier. Et donc, effectivement, il y a cette codification, pour ce que j'en pense, entre la poésie des troubadours et ce qu'on trouve dans les farces. Il y a de plus en plus dans les farces, puis les fatrasies et les sottes chansons de jeux de langage. Et ça devient une littérature qui est de plus en plus tournée vers le divertissement. Et je trouve qu'il y a une perte de ce sens, en tout cas de cette spiritualité avec le temps, au profit peut-être de conclusions de ce texte qui sont plutôt moralisants que portant à la spiritualité. Et alors mystifier, c'est apparu au cours du XVIIIe siècle dans les sociétés plaisantes, avec le sens d'abuser de la crédulité de quelqu'un pour se moquer de lui. Et donc, petit à petit, on est passé d'un ensemble de mots farcés, trompés, dupés, guilés, galliards, qui avaient une vivacité époustouflante, à un sens de moquerie de plus en plus avéré et moins porteur de sens, à mon sens. Voilà. Cette fois-ci, j'ai respecté l'horaire. Et je suis ouvert à vos questions pour savoir si notamment vous avez réussi à me suivre un peu de partout ou non, ou si vous avez besoin de me poser des questions.